De la fraîcheur, mais du soleil. Ce sera le cas aujourd'hui et ce week-end. Un temps favorable aux balades. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, c'est votre journal des idées. Et en prélude à la promenade avant ce week-end, Jacques, vous faites un point sur notre connaissance de cette activité, la balade, la marche.
Oui.
La marche à pied, un élément salutaire.
Oui, voilà, une activité tout à fait salutaire, Clara. Mettre un pied devant l'autre. Dans la dernière livraison des Carnets de sciences, la revue du CNRS, Francis Lecomte est allé enquêter dans différents laboratoires de neurosciences cognitives spécialisés dans l'étude de la marche. Et il s'avère que cette activité n'est pas pilotée par le cerveau, mais qu'elle est commandée par un réseau de neurones autonomes situés dans la moelle épinière. Ce réseau est localisé dans le bas du dos, explique Frédéric Broca, chercheur à l'Institut de neurosciences de la Timone à Marseille, et il génère l'alternance droite-gauche des mouvements locomoteurs lors de la marche ainsi que son rythme. Le cerveau se contente d'initier le mouvement, de l'orienter ou de le stopper. Dans le détail, parmi ces neurones marcheurs, il y a ceux qui commandent la contraction des muscles et ceux qui orchestrent le mouvement. Les excitateurs impriment le rythme et les inhibiteurs assurent le maintien de l'alternance droite-gauche en ménageant ce moment aérien où nous décollons pour moitié, un pied en l'air, en avant de l'autre. Les scientifiques appellent ce moment oscillation. Elle a lieu en moyenne aux deux tiers du mouvement global. Mais la marche ne mobilise pas que nos deux jambes. La cinétique de la locomotion implique l'ensemble de la colonne vertébrale. La marche, c'est une posture dynamique qui coordonne le tronc et les jambes, souligne Jean-René Cazalet de l'Université de Bordeaux, qui observe une propagation comme une vague qui part du haut du dos et se propage le long des vertèbres. Il ne s'agit pas d'un simple mouvement mécanique passif. C'est le résultat, là encore, du déroulement du programme moteur généré par le réseau d'interneurones. Outre les pathologies qu'elles permettent de mieux connaître, voire de soigner, dans le cas de personnes paraplégiques ou souffrant de Parkinson, ces recherches éclairent aussi le mystère de notre usage unique dans le règne animal de la bipédie et de l'évolution morphologique de nos pieds, capables en permanence de propulsion et plus seulement adaptés au grimper ou à la saisie d'objets. Cela s'est fait en ordre dispersé, d'une marche chaotique vers une marche de plus en plus efficace. Toutes les espèces dominidées ont testé différents mécanismes de bipédie, rééquilibrage avec le mouvement alterné des bras, voussure du pied, genou écarté ou non, fléchi ou non. La marche est donc le propre de l'humain, c'est peut-être pourquoi Nietzsche recommandait de n'ajouter foi à aucune pensée qui ne soit née en plein air, ajoutant dans le crépuscule des idoles que seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. La marche, si elle est d'abord une activité tellurique, nous fait très vite basculer dans l'univers en compagnon de route du soleil ou de la lune, dont nous suivons les trajectoires de l'aube au crépuscule et dans la nuit étoilée jusqu'à l'aurore, exposée aux éléments, aux météores et aux caprice du paysage. Vaillants et rivés à nos semelles, nous faisons alors l'épreuve heureuse de ce qu'Emmanuel Kant appelait le sublime, expérience concrète de la distance infinie entre notre petite humanité et la puissance de la nature, du caractère incommensurable des éléments naturels et de nos vies minuscules, nous qui prenons pourtant un profond plaisir à contempler le spectacle de cette démesure. En marchant, nous faisons aussi dans la foulée l'expérience du temps et de la durée, ainsi que de l'espace, particulièrement en montagne, là où l'horizontal et le vertical se combinent, se percutent ou se confondent pour littéralement déborder le regard. La dernière livraison de la revue Relief porte sur les sommets. Bernard Amy, alpiniste chevronné, y décrypte la puissante symbolique des hauteurs. Depuis la nuit des temps, la montagne représente le pilier unissant la terre et le ciel. Dans nos sociétés modernes, rationalistes et utilitaristes, cet imaginaire résiste au fond de notre inconscient collectif et ressurgit devant le spectacle des sommets. Le grimpeur céleste évoque notamment ce moment archétypique du regard par-dessus le col, ainsi désigné par Victor Segalen. C'est un moment précis, intense. Toute la montée, on a imaginé ce qu'il y a derrière le col, et au moment où l'on y arrive, il y a confrontation entre l'imagination et le réel. À l'époque où l'on découvre la montagne comme lieu de randonnée et de découverte de la nature sauvage, Chateaubriand écrit dans son Voyage au Mont Blanc, en opposant le sentiment d'oppression dû aux vallées encaissées à l'émotion aérienne des sommets, On attribue au paysage des montagnes la sublimité. Celle-ci tient sans doute à la grandeur des objets. Mais si l'on prouve que cette grandeur, très réelle en effet, n'est cependant pas sensible au regard, que devient la sublimité ? Il en est des monuments de la nature comme de ceux de l'art. Pour jouir de leur beauté, il faut être au véritable point de perspective.